VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Le président américain Donald Trump est sur le chemin du retour aux États-Unis après son sommet à Singapour avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. Les deux dirigeants ont affiché leur entente pour tourner la page du passé lors de cette réunion historique qui a abouti à la signature d'un document commun dans lequel le leader nord-coréen s'engage pour une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Le point avec Anne Albertson.
Interrogé sur la dénucléarisation, enjeu majeur du sommet de Singapour, après des décennies de tensions autour des ambitions atomiques de la Corée du Nord, le président américain a assuré que ce processus pourrait désormais commencer très rapidement. La rencontre, la première entre un président américain en exercice et un leader nord-coréen, a été marquée par les poignées de main appuyées entre les deux hommes. Messieurs Trump et Kim se sont entretenus pendant près de 5 heures, d'abord dans un tête-à-tête d'une quarantaine de minutes, suivi d'une réunion de travail, puis d'un déjeuner. Kim Jong-un a estimé avoir tourné la page du passé après avoir surmonté de nombreux obstacles pour arriver à cette rencontre qui est un bon prélude à la paix. Donald Trump a salué, lui, la relation très spéciale établie avec l'homme fort de Pyongyang qui règne sur son pays d'une main de fer, comme son père et son grand-père avant lui. La Chine, principal partenaire de la Corée du Nord, a aussitôt salué le début d'une nouvelle histoire, tout en appelant son voisin à une dénucléarisation totale.
Réaction de la Russie, ce sommet sans précédent est un événement positif, a déclaré ce mardi le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov, cité par l'agence RIA Novosti. Pour sa part, l'Union européenne a salué la réunion en la qualifiant d'étape capitale et nécessaire vers une dénucléarisation de la péninsule coréenne. Après le sommet, Donald Trump a annoncé qu'il mettait fin aux exercices militaires conjoints États-Unis-Corée du Sud, décrits comme très provocateurs à l'égard de la Corée du Nord. Le président américain a également assuré que Kim Jong-un s'était engagé après la signature de leur document commun à détruire un site de test de missiles. Les discussions étaient honnêtes, directes et productives et Kim Jong-un veut faire ce qui est juste, a souligné le chef de l'exécutif américain lors d'une conférence de presse à Singapour, en précisant avoir abordé la question des droits de l'homme en Corée du Nord. Crise migratoire, le navire Aquarius qui croise en Méditerranée chargé de migrants et dont l'Odyssée a causé une crispation diplomatique en Europe, compte poursuivre ses sauvetages au large de la Libye lorsque les 629 migrants à bord seront arrivés en Espagne. C'est ce qu'a affirmé ce mardi la directrice de l'ONG SOS Méditerranée qui affrète le bâtiment. Elle a affirmé agir au nom du droit maritime international et du devoir d'assistance à personnes en détresse. Cour pénale internationale de La Haye, les juges du tribunal annonceront mercredi au plus tard leur décision sur une éventuelle libération de l'ancien vice-président de la RDC, Jean-Pierre Bemba, acquitté à la surprise générale de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis par sa milice en RCA. C'est ce qu'a déclaré ce mardi le juge Bertram Schmitt à l'issue d'une audience qualifiée d'urgente. Bien qu'acquitté, Jean-Pierre Bemba n'a pas été libéré en raison d'une autre condamnation dans une affaire annexe de subornation de témoins dont la procédure est encore en cours. En prononçant son acquittement historique vendredi dernier, la Chambre d'appel de la CPI a estimé qu'il n'a pas été prouvé que M. Bemba, qui n'était pas lui-même présent en Centrafrique lors des faits, aurait pu contrôler à distance les agissements de sa milice, le Mouvement de libération du Congo MLC. Ancien riche homme d'affaires, devenu chef de guerre puis vice-président, Jean-Pierre Bemba avait été condamné en première instance en 2016 à 18 ans de prison, la peine la plus lourde jamais imposée par la Cour pénale internationale pour les meurtres, viols et pillages commis en Centrafrique par sa milice entre octobre 2002 et mars 2003. M. Bemba a passé plus d'une décennie en détention après sa condamnation en première instance. RDC toujours, la justice congolaise a annoncé avoir ouvert une enquête que la MONUSCO, la mission de l'ONU au Congo, se propose de soutenir 2 jours après le décès de Luc Nkulula, un des fondateurs de Lucha, mouvement pro-démocratie basé à Goma, opposé au maintien au pouvoir du président congolais Joseph Kabila au-delà de la fin de son mandat qui a expiré le 20 décembre 2016. Cet activiste anti-Kabila a péri dimanche dans un incendie suspect à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu dans l'est du pays. Mon office a ouvert une enquête qui a débuté hier lundi par une descente sur le lieu de l'incendie, a déclaré Dauphin Marwazo, procureur du tribunal de grande instance de Goma. La sœur cadette et l'oncle de la victime ont déjà été entendus, a ajouté M. Marwazo. L'annonce de l'ouverture d'une enquête par le parquet est une bonne chose, a déclaré à l'AFP Giva Kombi, un des dirigeants de Lucha. Pour sa part, Florence Marshall, porte-parole de la MONUSCO, a souligné que l'ONU est à la disposition de la justice congolaise pour soutenir son enquête.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Crise au Cameroun anglophone, Amnesty International dénonce des violations des droits de l'homme dans le pays et parle de population prise entre deux feux. Selon l'ONG de défense des droits humains basée à Londres, au moins 44 membres des forces de sécurité ont été abattus par des séparatistes armés entre septembre et mai dans les régions anglophones. Par ailleurs, les forces de sécurité camerounaises ont commis des violations des droits humains, dont des homicides illégaux, des exécutions extrajudiciaires, des destructions de biens, des arrestations arbitraires et des actes de torture durant des opérations militaires, selon Amnesty. À Madagascar, Christian Tsay, le nouveau premier ministre de consensus, a mis en place son gouvernement. Sa principale mission sera d'organiser les élections générales prévues cette année pour sortir le pays de la crise. Marie Benson.
Le nouveau premier ministre malgache a mis en place son gouvernement. Conformément à la décision de la Haute Cour constitutionnelle, la nouvelle équipe restera au pouvoir jusqu'à la tenue des élections prévues d'ici septembre. Depuis plusieurs semaines, l'opposition manifeste pour exiger la démission du président malgache. Les opposants avaient saisi la Haute Cour qui avait donné une semaine au président pour nommer un gouvernement de consensus. Christian Tsay, un ancien haut fonctionnaire international, avait été choisi le 4 juin comme chef de gouvernement. Malgré tout, l'opposition est mobilisée tous les jours sur la place du 13 mai à Antananarivo pour réclamer le départ du président élu fin 2013, mais qui n'a pas encore dit s'il va briguer un second mandat.
Afrique du Nord maintenant. En Libye, un double attentat suicide a visé aujourd'hui des forces loyales au maréchal Khalifa Haftar qui mène une offensive contre des milices islamistes et djihadistes à Derna dans l'est du pays. Il y a eu des victimes selon un porte-parole de ces forces. Les attaques ont eu lieu ce matin à l'aube de la région de Chia au sud de Derna et des explosions ont été entendues dans toute la ville. Pas de bilan précis jusqu'à présent. Et puis au Soudan, les Nations Unies prévoient de réduire de moitié leurs forces de maintien de la paix conjointe avec l'Union africaine au Darfour, la MINUAD. C'est ce qu'a annoncé lundi le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix. Le Conseil de sécurité de l'ONU avait déjà accepté l'année dernière de réduire les effectifs de la MINUAD, qui fut l'une des plus importantes et des plus coûteuses de toutes les opérations de maintien de la paix de l'ONU, alors que les États-Unis réclamaient des coupes budgétaires dans les opérations de paix. Coupe du monde de football en Russie, Nike a refusé de fournir aux joueurs de l'équipe nationale d'Iran des chaussures pour la Coupe du monde de football qui débute le 14 juin. Le géant américain a invoqué le respect des sanctions américaines qui visent la République islamique d'Iran. Eric Manirakiza.
D'après le porte-parole de Nike, les sanctions applicables à Nike sont en place depuis de nombreuses années et sont inscrites dans la loi. Depuis janvier 2016, l'administration américaine délivrait néanmoins des autorisations à des sociétés américaines pour qu'elles puissent passer des accords commerciaux avec des entités iraniennes. Cependant, le 8 mai dernier, le président Donald Trump a retiré les États-Unis de l'accord nucléaire signé en 2015 entre l'Iran et les grandes puissances internationales. En conséquence, l'administration Trump a rétabli l'intégralité des sanctions imposées à Téhéran, le site d'information sportive ESPN a indiqué que l'équipementier américain fournissait encore l'équipe nationale iranienne il y a quelques semaines en vertu d'une relation de longue date. L'Iran doit démarrer son tournoi vendredi contre le Maroc dans le groupe B.
Et pour terminer, au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a annoncé que la journée de la démocratie, jusqu'ici célébrée le 29 mai de chaque année, sera désormais observée le 12 juin à partir de 2019. Cette initiative, selon le président Buhari, vise à reconnaître et honorer Mouchtoud Abiola, vainqueur de l'élection présidentielle organisée le 12 juin 1993. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.